Vous écoutez France Culture.
Voilà, en ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours sur France Culture, à 14h, toujours bien sûr en direct de la maison ronde de la maison de la radio, en direct du studio 1061. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, le grand thème, le grand sujet, la philosophie de la biologie ou la philosophie biologique. En tout cas, ses concepts et ses conceptions, et cela avec Christian Zax, qui vient d'écrire un livre sur le thème. Et puis bien sûr, comme à notre ordinaire, nous ouvrirons ensuite l'espace critique pour y entendre Lydia Benistiak, et encore une fois, comme à notre ordinaire, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un animal, un insecte, très exactement un insecte, qui vient de l'extrême nuit des temps. Il répond au nom de Struthiella. On sait que la biodiversité animale de la Terre est dominée par les insectes, et cela depuis la fin du Carbonifère, soit moins de 320 millions d'années. Mais la mise en place de ce groupe majeur d'invertébrés reste encore mystérieuse. Quand les premiers insectes sont-ils apparus sur Terre? Les fossiles complets d'insectes manquent avant cette période, à l'exception d'un insecte daté du Dévonien inférieur, il y a donc moins 411 millions d'années. Insecte découvert en Écosse il y a plus de 80 ans. Cet insecte, donc, est uniquement connu par ses pièces buccales. Et voilà qu'une équipe internationale, sous la direction de Romain Garouste du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, vient de découvrir un petit insecte, complet lui, et cela dans le gisement belge du Strude. Il date du Dévonien supérieur, il y a moins de 365 millions d'années, nommé encore une fois Struthiella donc. Ce fossile unique confirme en partie les résultats issus des reconstitutions dites phylogénétiques, celle qui retrace l'histoire des vivants. Ces reconstitutions datent l'apparition des premiers insectes, probablement au Silurien, il y a moins de 425 millions d'années. Les fossiles d'insectes, étant virtuellement absents du registre fossile du Silurien au Dévonien, la découverte du petit insecte fossile, lui donc, vient enfin combler particulièrement, et je mets les guillemets, ce vide. L'état de conservation du fossile permet de conclure qu'il s'agit d'un petit insecte, probablement proche des premiers représentants des sauterelles, avec de longues antennes, une tête relativement grande et des mandibules très robustes. Quelques 1 cm il fait de longueur. L'absence des ailes sur le spécimen n'a pas permis de déterminer le stade de développement de cet insecte. Est-ce une larve? Est-ce un adulte? Bien que retrouvé dans le fond fossilisé d'une mare temporaire en compagnie d'organismes d'eau douce comme les crustacés, cet animal a les caractéristiques d'un insecte terrestre et ne présente aucun caractère morphologique ou organique permettant une adaptation à la vie aquatique. Donc, pour résumer, bien, pour la généalogie des insectes, bienvenue à Struthiella. Voilà. Bonjour Christian Zax.
Bonjour.
Et tout d'abord, ben voilà, en manière de compliment, je vous remercie d'avoir écrit ce livre parce qu'il est très précieux.
Merci.
Simplement pour des considérations qu'on va essayer d'amoindrir, quand même, ce livre est très dense, c'est un réseau conceptuel très fort, où toutes les idées sont concaténées de façon puissante. Alors on va essayer d'en donner en tout cas quelques aperçus. parce que cette philosophie de la biologie, c'est quand même absolument, évidemment, passionnant. Il y a peu de livres, en tout cas dans la littérature française. Les anglo-saxons, encore une fois, ont, eux, pratiqué, on pourrait citer par exemple Eliot Sober, hein, comme grand philosophe, mais il y a vraiment une grande spécialité dans la philosophie anglo-saxonne concernant donc cette réflexion sur la biologie, moins dans la littérature française.
Malheureusement, oui. C'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit en fait ce livre qui, comme vous le dites vous-même, est un peu dense. Donc il ne s'agit pas, malheureusement pas encore, d'un livre vraiment introduction dans le style d'Eliot Sober, par exemple, ou Alexander Rosenberg, ou en règle générale, la philosophie écrite par les Américains ou Australiens, qui sont très bien d'exprimer en fait des notions clés, des débats clés en philosophie de la biologie. Mmh. C'est une certaine manque, et bien sûr, j'espère que je contribue un peu avec ce livre.
À le combler, ce manque.
Oui, un peu.
D'accord. Mais cela dit, il porte un sous-titre, Enjeux et perspectives, et comme ça délabore encore comme préliminaire, est-ce que le plan s'est imposé tout de suite? On va voir, on va évidemment prendre pas tous les chapitres, il y en a plus de 10, mais est-ce que le plan s'est imposé ou au contraire, vous avez d'abord eu un moment de réflexion? Bon, ça commence évidemment pas par une définition de qu'est-ce que la vie, mais par une définition directement de la théorie de l'évolution, qu'est-ce à dire?
D'une certaine façon, pour expliquer la structure du livre, bien sûr, à mon avis, en philosophie de la biologie, il serait bien, presque nécessaire, de commencer avec la théorie de l'évolution, parce que ça constitue, disons, un cadre causal historique pour toutes les autres disciplines de la biologie. Donc, pour citer, bon, même si c'est déjà mille fois cité, les dictums de Dobzhansky, il n'y a rien qui fait du sens en biologie, sauf à la lumière
de la théorie de l'évolution. De l'évolution, oui.
Ça, effectivement, c'est... et donc il se pose maintenant un peu la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est, si vous prenez par exemple le progrès scientifique en génétique, qui nous explique certains mécanismes entre l'ADN et la synthèse, la production des protéines et tout ça, c'est toujours un peu le comment qui est expliqué. Mais en fait, la théorie de l'évolution nous fournit un cadre plus global, en fait. C'est ça. Oui. Historique, c'est un peu... c'est la réponse à la question pourquoi il existe cette espèce ou ces mécanismes maintenant. C'est ça qui manque, en fait.
Alors, ce qu'on peut d'abord affirmer, en tout cas, pour faire des distinctions positives ou en tout cas éclairantes, c'est que la biologie évolutionnaire, donc celle qui s'appuie sur la théorie de l'évolution... Vous dites quel est le fondement historico-causal pour les disciplines qui sont non historiques en biologie. C'est-à-dire, bon, il y a évidemment beaucoup de réflexions en génétique où on est dans la pure biochimie, par exemple. Et donc, il y a aussi certaines des fonctions, certains des mécanismes où on n'a pas directement, vous avez dit la phrase de Dobzhansky, c'est le fond sur lequel on s'appuie, mais on n'a pas besoin de considérations historiques. La grande différence, c'est que la biologie, de part en part, quand même, se distingue des autres disciplines, comme la physique, par le fait qu'elle soit avec une dimension historique. Ce qui la rapproche, de ce point de vue, d'ailleurs, de la cosmologie, puisque la cosmologie partie de la physique, d'une certaine manière, et de l'astrophysique.
Très bien, oui, hein, oui, très bien. Il a aussi une partie historique là-dedans. Mais vous avez bien dit, une des grandes différences entre la biologie et la physique, c'est cette dimension historique, et peut-être on va revenir plus tard là-dessus. C'est crucial qu'il a cette théorie de l'évolution qui, à mon avis, permet de mieux justifier en fait la contribution de la biologie par rapport à la physique. Pourquoi on n'a pas simplement besoin de la physique, qui a quand même la théorie la plus détaillée, la plus fondamentale? Pourquoi il en a tout par la biologie? Et à mon avis, la meilleure façon de justifier ça, se base en fait sur les principes de la sélection naturelle.
Eh oui. Alors justement, on va regarder immédiatement ce principe de sélection naturelle. On va regarder qu'est-ce qu'il veut dire. En général, si je disais les choses de façon un petit peu pas comique, mais enfin bon, caricaturée, cette théorie de l'évolution, cette théorie évolutionnaire, c'est une sorte de valse à trois temps. Il y a mutation aléatoire des gènes dans quelque chose qui est un patrimoine génétique. Puis donc modification, bien évidemment, à partir de cette mutation aléatoire de partie du patrimoine génétique. Donc, à ce moment-là, évidemment, ce nouvel organisme doit passer le crible de la sélection. Et le résultat, le dernier pas de cette valse à trois temps, c'est l'adaptation réussie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a la survenue, évidemment, de capacités de survie augmentée, par exemple, dans un environnement donné.
Effectivement.
On peut partir de ça.
Oui. Alors, on peut dire, pour expliquer tout la fascination qu'on observe dans notre entourage biologique, si on veut savoir comment et pourquoi il y a des organismes très complexes et spécifiques, pourquoi ils ont ces adaptations, pour utiliser la terminologie, on fait référence au principe de la sélection naturelle, parce que c'est le seul mécanisme qui aboutit à des adaptations, à une optimisation progressive, bien sûr pas une optimalité absolue, mais relative. Et donc, prenons une petite survol de la théorie de l'évolution, c'est clair que c'est le mécanisme de la sélection naturelle qui joue le rôle important en combinaison avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'une variabilité génétique par des mutations. C'est en fait cette combinaison qui rend tout extrêmement puissante et qui est en fait la raison pour laquelle on a cette diversité fascinante biologique.
Alors j'emprunte votre propos pour fixer là encore les choses et on va introduire un élément nouveau, en tout cas pour le principe de la sélection naturelle, c'est le fait qu'une propriété est avantageuse, non seulement bien sûr pour la survie, mais il ne faut pas non plus oublier ce détail d'importance, il faut qu'il y ait une descendance, donc cette sélection doit être avantageuse aussi pour la reproduction d'une espèce donnée à un moment. Et là encore, ce partenaire absolument fondamental que vous faites réapparaître de façon récurrente, bien sûr, dans vos raisonnements, Christian Zaks, qui est l'environnement.
Oui, disons, pour résumer en d'autres termes, le principe de la sélection naturelle présuppose qu'il y a une différence de fitness ni
ça y est, le mot qui fâche est lancé. On va y venir,
on va y venir
dans les yeux.
Et, mais c'est quand même, parce que vous l'avez mentionné, c'est toujours, ça dépend du contexte, quel allèle, quel trait est avantageux ou désavantageux. Il est possible qu'un certain trait est très avantageux ici à la maison de la Radio France, mais très désavantageux en fait à l'Université de Lausanne. Donc il est sélectionné ici, mais désélectionné ou pas sélectionné en Suisse.
C'est ça, l'AMIB Radio France ne marchera pas bien en tant qu'AMIB dans le pays des Helvètes, en Helvétie. D'accord. Alors, autre chose aussi, ce qui renforce d'ailleurs l'idée que cette évolution est vraiment à dimension historique, c'est que cette sélection a fait que les propriétés les plus avantageuses ont été sélectionnées, qu'il y a eu jaillissement ou émergence d'espèces nouvelles, mais qu'en tout cas elles s'engendrent les unes des autres. Et on se retrouve donc devant ce principe, bien évidemment, qui là encore incruste la dimension temporelle et historique, c'est l'ancêtre commun.
Oui, disons.
Il faut postuler de l'ancêtre commun à tous les instants, et quel que soit d'ailleurs l'embranchement de l'arbre.
Oui, tout à fait. Mais disons, logiquement, on peut bien sûr quand même distinguer l'idée d'un ancêtre commun avec le principe de la sélection naturelle. Il est tout à fait possible que dans notre monde, on n'avait pas juste un seul ancêtre commun. C'est une autre hypothèse. Mais en règle générale, étant donné qu'on trouve pas mal de similarités génétiques, moléculaires, on dit que nous avons tous un ancêtre commun. Et maintenant, il faut m'aider, vous avez... C'était
non, mais aspect. Maintenant, on va tout à fait parfait. Normalement passer, vous avez lancé le mot, à ce concept de fitness. Alors, fitness, bon, c'est le mot anglais, on le traduit... dans la littérature, on met fitness, d'ailleurs, on ne traduit plus, mais vous, évidemment, on peut le traduire, et vous avez une proposition de traduction, bien sûr, qui est admise, c'est donc la valeur sélective. Grosso modo, on va parler de mesure de fitness, on va parler de degré de fitness. Pour le définir de façon simple, comment est-ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, première approximation, pour définir cette fitness? C'est grosso modo, il y a un degré de capacité de survie, il y a un degré de capacité de propension de l'espèce, ainsi de suite. Donc c'est ce degré-là que l'on mesure.
Effectivement, c'est le produit des deux. La probabilité ou capacité de se vivre fois la fréquence de se reproduire. Donc on peut augmenter la fitness ou on peut avoir un niveau de fitness très haut si on a une grande probabilité de se vivre, malgré le fait peut-être que la fréquence de la reproduction est plutôt minimale, mais il faut avoir toujours une valeur plus grande que zéro pour avoir un bon niveau de fitness.
Bien sûr.
Il faut avoir les deux.
Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, aujourd'hui strictement centré sur des concepts fondamentaux de la théorie évolutionnaire, de la théorie de l'évolution, toujours en compagnie de Christian Zax, et autour de son ouvrage qui s'intitule « Philosophie de la biologie ». Alors pour continuer, avec, parce que c'est extrêmement important de comprendre ce concept de fitness, c'est, et là encore je reprends une citation extraite de votre ouvrage pour bien enfoncer le clou, puisque d'une certaine manière pour s'habituer, arriver à mieux comprendre, après tout la redondance a toujours ses vertus en popularisation des sciences, le degré de fitness d'un organisme ou d'une population, il se définit par sa capacité de survie, et par sa fréquence de reproduction. Donc la fitness est très simplement définie par le nombre de descendants, le nombre est influencé par ce qu'on a, on dit généralement par la probabilité de survie. Quoi.
Effectivement.
Voilà. Ouais.
Et tout ça a créé malgré tout, malgré de sa simplicité, un grand débat, et d'une certaine façon un grand problème pour la qualité scientifique de la théorie de l'évolution. Donc si, en résumé, on dit que la théorie de l'évolution se base principalement sur le principe de la sélection naturelle, qui se base principalement sur une différence du degré de fitness, pour expliquer en fait le parcours évolutionniste, alors il faut avoir une notion claire. En théorie, on dit que si on a devant nous, par exemple, une population de bactéries avec un certain niveau de fitness, en comparaison avec une autre population de bactéries où la fitness est différente, dû à cette différence de fitness, on va prédire et expliquer pourquoi la première population va supplanter en fait l'autre. Donc c'est en fait le niveau de fitness maintenant qui va expliquer un résultat plus tard. Mais le problème est bien sûr que le niveau de fitness de la population bactérienne maintenant, c'est défini par son résultat. C'est défini par le fait qu'il y a des bactéries qui ont survécu et le fait que les bactéries ont se reproduit. Donc, ça devient circulaire. On veut utiliser fitness
tautologique,
pour
oui, tautologie. Voilà, c'est le reproche
oui,
qu'on peut
c'est
faire.
C'est le reproche, en fait. Ouais.
Alors, on peut étendre aussi, toujours pour rester dans cet exercice de définition, c'est un exemple que vous donnez. C'est l'exemple des lions, ou le lion. Il a évidemment, on doit considérer qu'il a une probabilité de survie, toujours si on cherche donc à comprendre ce degré de fitness, qui est dans un environnement donné. Évidemment, on sait que les lions sont les prédateurs des zèbres. Ils ne sont pas que prédateurs de zèbres, mais en tout cas, leur grosse nourriture aux lions, c'est les zèbres, peut-être pas les girafes, non, elles sont trop costauds. Mais enfin bon, les zèbres, et puis bon, il y en a certains autres. Mais en tout cas, le zèbre, c'est bien. Alors, pour le lion, si le nombre de zèbres diminue dans un environnement donné pour ces lions, hop, on voit qu'il va y avoir chute du degré de fitness d'une certaine manière. Et là, pour bien enrichir ce concept de fitness, ça n'est pas seulement les capacités propres des individus, des organismes, des populations concernées, mais c'est aussi un paramètre de l'environnement.
En effet, le niveau de fitness, ça dépend du contexte pertinent. Et pour les zèbres, le contexte pertinent est bien sûr la nourriture et la présence ou absence de lions qui chassent les zèbres. Et vice-versa, pour les lions, il est évident d'avoir accès à la nourriture. Donc si la population des zèbres diminue, alors il devient plus difficile d'obtenir suffisamment de ressources. Du coup, le résultat est bien sûr que la population des lions va diminuer aussi, qui, au deuxième lieu, bien sûr, implique que la population des zèbres va augmenter. Et donc, il y a pas mal de formulations qui formalisent en fait toute cette interaction, à quel point il y a des dépendances mutuelles.
Dépendance, oui.
Et dans un système écologique, ça devient très, très complexe. Il n'y a pas juste deux variables, mais
oui,
ça suffit pour illustrer un peu le point.
Alors, peut-être pour finir, enfin conclure, je ne dirais pas, parce qu'on a d'autres concepts en tout cas à aborder, à analyser, mais pour finir avec cet exemple donc, de fitness, vous rappelez aussi, et ça montre là encore l'abstraction hein, de l'idée, c'est-à-dire que c'est vraiment une considération qui est abstraite. Hein. Si deux organismes se distinguent, ou plus exactement, il est possible que deux organismes aient le même degré de fitness, c'est un chiffre abstrait, mesurable, c'est en termes de degrés, et même s'ils sont physiquement différents. Et encore une fois, alors, On a jusqu'ici pris l'exemple du lion dans la savane, bien enrichi par ses chasses au lion, et puis les bactéries dans un hôpital ou les petits pois de Georges Mandel. C'est les trois exemples que vous utilisez. On voit très bien petits pois, bactéries et lion. Il y a peut-être un degré de fitness qu'ils partagent en commun, en tout cas quelque chose numériquement qui pourrait se calculer de manière identique. Donc on voit que l'application ne s'appuie pas, et c'est subtil, hein, c'est ce concept de fitness.
C'est subtil parce que si on reste au niveau, disons, un petit peu superficiel, donc si on se focalise sur un simple chiffre, on voit cette similarité entre les bactéries et les petits pois de Gregor Mendel et nous, ou les lions. Donc, étant donné que les niveaux de fitness dépendent du contexte environnemental, et le contexte peut changer, et bien sûr, déjà en France, on a des contextes environnementaux très différents, alors pour mieux caractériser un organisme ou une population, on formalise ça sous forme de niveau de fitness par rapport au contexte environnemental X, Y, Z, etc. Donc, on a en fin de compte une sorte de fonction de niveau de fitness, et bien sûr ça. Si on fait une telle analyse plus détaillée, on voit bien les différences entre les petits pois de Gregor Mendel et nous, ou les lions.
Alors, on pourrait poser, mais on n'aura pas le temps, malheureusement, parce que là encore, ça demande beaucoup d'attention pour savoir si cette fitness a une réalité causale. C'est quelque chose que évidemment, vous posez. Vous dites aussi, vous expliquez, là encore, c'est un concept extrêmement intéressant, Christian Zax, que c'est une propriété dispositionnelle. Là encore, conceptuellement, c'est intéressant. Je peux simplement vous demander votre confirmation. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété dispositionnelle? Eh bien, par exemple, le sucre fond dans l'eau. Donc, mis dans l'eau, il se dissout. Mais s'il n'y a pas d'eau disponible, il ne va évidemment pas se dissoudre. Mais sa disposition à se dissoudre continue à exister. Donc voilà, c'est une sorte de propension, comme dirait Popper, par exemple.
Oui, effectivement. Donc, en gros, c'est pour rendre plus explicite la relation ou la dimension relative dans la notion du niveau de fitness qui dépend toujours du contexte environnemental. Donc, pour prendre un autre exemple, on a des dispositions génétiques, mais si ou non ils sont manifestés, ça dépend du contexte environnemental. Et c'est très important à garder à l'esprit si on veut en fait résoudre les problèmes de la tautologie de la fitness. Il faut distinguer entre la dimension ontologique et la dimension épistémologique. Donc en gros, si on prend un organisme, son niveau de fitness est constitué par ses propriétés physiques, biochimiques, biologiques en relation avec le contexte donné, mais si ou non certaines propriétés de ces dispositions sont manifestées ou pas, ça peut changer et dans des contextes différents. Plus important pour dire ça, c'est ces propriétés déterminées par vos propriétés physiques, biochimiques et biologiques. Si ou non on peut y accéder, on peut les mesurer avec nos méthodologiques, c'est une toute autre question en fait. Donc, la fitness d'un organisme existe, mais si ou non on peut maintenant dire que c'est 3,5 ou si on arrive à préciser suffisamment bien pour faire des prédictions qui sont confirmées ou falsifiées plus tard, c'est une autre question.
Alors je vous propose maintenant qu'on passe, ça sera le second, il y en aura peut-être un troisième, j'espère que le temps nous le laissera pour l'aborder. C'est évidemment, là encore, un des concepts fondamentaux de la théorie de l'évolution, c'est l'adaptationnisme. On a vu que dans cette valse-là, mutation, sélection et donc confirmation d'une adaptation et donc une qualité bien meilleure dans la lutte pour la survie, je ne dis pas la lutte pour la vie, hein. Mm-hmm. Ça rappellerait de mauvais souvenirs. Hein. Cette adaptation, c'est une modification, encore une fois, qui permet, alors évidemment, pour lier les choses, une amélioration de la fitness, mais encore une fois, sous la pression de la sélection naturelle. Vous dites qu'il y a deux aspects dans la cause du développement évolutionnaire. Il y a d'abord une adaptation dite convergente, celle-ci donc est liée, je suppose, à un milieu très précis, et l'autre qui est divergente, c'est-à-dire qu'elle se passe dans des contextes qui sont différents. Ouais. Dans quel cas est-ce qu'on peut voir la naissance et ce qui fait que se maintient de façon pérenne une espèce pour la question d'adaptation? C'est plutôt cette adaptation divergente qui, d'un seul coup, fait que voilà des organismes nouveaux qui sont mieux adaptés. Je vous mets dans l'embarras, là, avec ma question.
Bah, il faut un peu vous poser les bonnes questions, donc il me faut quand même réfléchir si ou non, dans les deux cas, on a des adaptations. Disons, l'adaptation, c'est si une propriété ou une base génétique est fixée à cause de son avantage que ça contribue à la survie ou à la reproduction. Donc, on peut bel et bien imaginer que dans des contextes différents, des espèces différentes, développent quand même des traits, des propriétés, des solutions similaires. Donc, on parle des traits analogues, tandis que dans d'autres cas, on parle des traits homologues qui sont dus à un ancêtre commun. Et bien sûr, on peut maintenant aller encore plus dans les détails pour avoir d'autres situations où, par exemple, ces traits homologues qu'on partage avec d'autres espèces dues à notre ancêtre commun, qui est tout à fait fonctionnel et adaptatif chez nous, mais neutre ou pas avantageux chez d'autres. Donc tout ça n'est pas exclu directement par la théorie de l'évolution qui se passe sur le principe de la sélection naturelle. Mais bien sûr, si une fois on entre dans les détails, les débats adaptationnisme versus anti-adaptationnisme tournent autour de la question...
Anti-adaptationnisme, oui. Oui. Vous l'avez dit vite.
Pardon.
Oui.
Tournent autour de la question, quelle est la force de la sélection naturelle? Donc si on prend simplement comme fait qu'on a l'évolution biologique a lieu, il se pose la question, quel est le mécanisme? Question de savoir si on trouve un seul mécanisme qui explique, au meilleur des cas, tous, en fait. Et ça, c'est un peu défendu par les dites adaptationnistes, que si on veut expliquer l'évolution d'une certaine espèce, ou en fait tout, il suffit de se focaliser sur le principe de la sélection naturelle et la différence de fitness. Et à ces points-là, ça devient de nouveau important qu'on a résolu le problème de la tautologie. Donc ça... On accepte, on fait comme admis pour l'instant. Et de l'autre côté, il y a bien sûr des philosophes et des biologistes qui ont dit cette exclusivité qu'on veut attribuer au principe de la sélection naturelle, c'est exagéré. Il ne veut pas mettre en question que le principe de la sélection naturelle soit faux. Il veut simplement dire qu'il existe beaucoup de cas où on n'a pas besoin de faire référence au principe. Il existe peut-être une majorité de cas où le principe de la sélection naturelle ou la différence de fitness n'a joué aucun rôle. Mm-hmm. Ce n'est pas essentiel. Donc, d'accord, on met en question cette exclusivité. Et bien sûr, si je continue à parler, c'est dans les débats, on commence très souvent avec les deux extrêmes qui sont un peu caricaturisés, qui sont un peu, bien sûr un peu fausses. Et la vérité se trouve un peu entre les deux.
Au milieu.
Au milieu, c'est ça.
Alors, et pour conclure là, cette partie, bon, vous rappelez que la rapidité, reprenons nos exemples avec zèbre et lion, hein, mm-hmm. Pour les zèbres, c'est un avantage sélectif. Parce que, eh ben, ils courent très vite, et comme ça, ceux qui courent le plus vite ne se font pas attraper par les vilains lions. Il est possible donc que la base génétique liée à la rapidité disparaisse aussi, progressivement. Et là, vous dites une chose très intéressante. Alors, il faudrait introduire, mais allons vite, la dérive, donc, ce qu'on appelle la dérive génétique. En tout cas, il y a de moins en moins, dans le cas de la dérive sélective, il y a de moins en moins de variances et de traits. Bon. Et pour les espèces menacées, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... donc, et en plus, elles sont vraiment menacées, hein, il faut appuyer sur le fait, c'est que plus une espèce est menacée, et d'une certaine manière, plus elle perd des gènes avantageux pour la survie.
Oui, c'est un simple fait statistique, peut-on c'est dire, ça. Si on a des organismes qui sont diploïdes, qui veut dire que nous, on transmet simplement l'allèle que j'ai hérité de ma mère ou l'allèle que j'ai hérité de mon père à la prochaine génération. Et imaginons que j'ai maintenant juste un seul enfant, alors c'est juste un allèle qui est transmis. Imaginons que les deux
allèle,
allèles...
c'est version d'un gène, hein. Il y a plusieurs versions d'un même gène, voilà. Donc un allèle, c'est la version d'un gène et il y en a souvent plusieurs fixés à un locus. Bon, on arrête là les explications techniques. Oui,
oui. Alors disons, si j'ai un allèle PT1 et un allèle grand A, c'est juste un de ces deux allèles qui est transmis. Donc si on imagine maintenant une petite population où chaque individu est dans une telle situation... Il est même possible qu'à la prochaine génération, il a déjà un allèle qui est simplement disparu, parce que c'est dans chaque cas juste une chance de 50%. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, pour faire d'abstraction de la taille de la population, donc pour être dans une position adaptationniste qui se focalise exclusivement sur le principe de la sélection naturelle, il faut présupposer une taille de la population très grande, où ces effets statistiques, ces dérives génétiques, cette perte hasardeuse de certaines allèles
de certaines gènes, versions de gènes, voilà,
et négligeable en fait. Maintenant, il se pose simplement la question si dans l'évolution, donc dans les dernières 3,7 milliards d'années, est-ce qu'on avait surtout des situations où la taille de la population était très grande, donc on peut négliger les effets statistiques, les dérives génétiques et tout ça, ou c'était quand même parfois très crucial qu'on avait des situations où la population était très petite, du coup la force de la sélection naturelle était peut-être plus petite que des processus aléatoires, la perte d'une variabilité génétique par hasard, etc., etc. Donc c'est une question empirique, en fin de compte, j'y dirais, qui est difficilement à répondre.
C'est ça, la réponse est difficile à trouver. Écoutez, bon, on va passer ensuite à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est gentil avec nos sœurs et avec nos cousins, mais juste après ça. Ben voilà, passé allègrement de 2 minutes, mi-temps. Le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science aujourd'hui, consacré donc à la philosophie de la biologie, toujours en compagnie de Christian Zax. Et comme je disais, donc on va aborder maintenant la question de l'altruisme, parce que là encore, on peut la présenter sous une forme paradoxale. Grosso modo, en général, chacun des organismes est, d'une certaine manière, est dévolu de manière absolument têtue à assurer le mieux qu'elle peut une descendance, et la plus vaste qu'elle soit. Et voilà que dans certains groupes animaux, dans certains ensembles de populations, qu'on appelle d'ailleurs les animaux sociaux, les insectes sociaux, qui ont été un des exemples paradigmatiques, voilà des individus qui ont un comportement généreux, c'est pour ça qu'on l'appelle altruiste. Évidemment, ça n'est pas un altruisme à connotation anthropomorphique, hein, c'est pas un altruisme moral comme on l'attribue à l'homme. Mais en tout cas, voilà, en particulier où c'est le plus criant, c'est certaines fourmis qui sont tout à fait stériles, et qui donc n'ont pas de descendance et qui pourtant aident de façon appuyée les membres de leur communauté. Voilà le problème tel qu'il se pose. Et donc la chose était absolument paradoxale par rapport à certains des grands principes de la théorie de l'évolution.
Bah, effectivement, il est évident, à mon avis, et aussi dans la recherche, qu'il existe une base génétique pour un tel comportement altruiste. Étant donné qu'une base génétique peut être juste sélectionnée si ça apporte un avantage quelconque, alors, il semble que la théorie de l'évolution n'explique pas cette existence d'une base génétique en faveur d'un comportement altruiste. Donc, quel choix on a maintenant ? Soit on doit conclure que le principe de la sélection naturelle, la théorie de l'évolution, n'arrive pas à expliquer tout le domaine biologique,
oui.
Ou on doit trouver une solution qui rend compatible l'existence de la coopération et de l'altruisme avec le principe de la sélection naturelle. Donc ça, c'est un peu le cadre de
ce débat. Général, oui,
le cadre
débat,
général,
oui, de l'altruisme.
Effectivement.
Oui.
Et bien sûr, il existe plusieurs possibilités. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que quelle entité en fait sous considération dans ces débats. On peut résoudre ces problèmes, expliquer l'existence de l'altruisme en faisant référence à l'espèce, à la population, parce qu'effectivement, une population qui contient beaucoup d'individus qui sont altruistes et coopératifs, qui s'aident mutuellement, une telle population est plus compétitive. En oui. comparaison avec une population qui contient juste...
Des égoïstes,
métaphoriquement parlant. Il ne faut pas impliquer... Oui.
Métaphoriquement parlant, bien sûr.
Mais,
ou non altruiste, allez, on va le dire.
Non altruiste, effectivement. Oui. Mais bien sûr, le grand problème d'un tel changement de perspective, donc on ne regarde pas le bien-être de l'individu, donc l'organisme individuel comme Darwin a fait, mais on regarde... Qu'est-ce que c'est bien pour la population, pour l'espèce, contient toujours les défauts, à mon avis, qu'une population qui contient des individus non altruistes, c'est eux qui ont à l'intérieur de cette population un avantage. Ils exploitent en fait
les altruistes.
Donc c'est juste une question du temps qu'à l'intérieur de cette population altruiste, ou grosso modo altruiste au début, c'est en fin de compte, ça devient aussi une population non altruiste. Donc en termes de Ernst Mayr,
et grand biologiste, ouais. En particulier de la synthèse, hein, ce qu'on appelle la nouvelle synthèse.
Pardon.
Ernst Mayr, donc.
Donc. Il n'a pas une stabilité évolutionnaire. Il faut toujours avoir cet regard à quel point un certain comportement, un trait, une base génétique reste évolutionnairement stable, peut persister dans le temps, ne peut pas être supplanté par d'autres stratégies comportementales, d'autres bases génétiques en fait, qui courent pour un tel comportement. Donc ça, c'est un peu le grand défaut pour le changement de la perspective vers... la population. Maintenant, on peut poser la question, est-ce qu'on arrive à résoudre le problème si on fait un changement de perspective vers le gène, en fait? Donc, on ne regarde pas juste l'individu, mais on regarde le gène, quelque chose qui est rendu public par Richard Dawkins, par exemple.
Oui.
Le gène égoïste, très provocateur, mais en fin de compte, il y a bien sûr des idées intelligentes derrière qui n'ont pas ces problèmes.
On peut résumer d'un mot, hein, c'est-à-dire que la position, grosso modo, en la caricaturant un petit peu, celle de Richard Dawkins, est la suivante, c'est qu'après tout, ceux qui sont l'objet de la sélection, qui sont l'objet, donc en grosso modo, qui sont les sujets de la théorie de l'évolution ou de l'histoire du vivant, ce ne sont pas les organismes. Ce sont ces gènes qui sont là. Et l'enveloppe des organismes, de toute l'expression phénotypique hein, des individus, n'a pas d'importance. Les réplicateurs sont les gènes.
Effectivement.
C'est ça l'idée, grosso modo, de Dawkins. Alors, si on se place à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire?
Juste pour résumer ou pour simplifier un peu, si vous prenez la position du gène et ces gènes altruistes, disons, va vous pousser en tant qu'organisme d'aider quelqu'un d'autre, être altruiste, par rapport à quelqu'un d'autre, et l'autre organisme que vous aidez contient en fait aussi ces gènes-là, on peut bel et bien imaginer que même si c'est désavantageux pour vous, si c'est suffisamment avantageux pour l'autre, en fait plus avantageux que c'est désavantageux pour vous, c'est bénéfice par rapport aux gènes. Parce que tout ce qui compte est que les occurrences de ces gènes, même s'ils se trouvent dans un autre organisme, persiste et continue à se répliquer. Donc on peut faire les fameux calculations si vous sauvez la vie de 3 enfants et chaque enfant contient bien sûr 50% de vos gènes et en faisant ça on va mourir, c'est quand même bénéfice pour le gène parce qu'il existe encore 3 exemplaires tandis que chez nous il existait juste 2 ou 1.
Ça bien
dépend
sûr,
en fait. Donc
il faudrait peut-être rajouter, on a cité Richard Dawkins, et on pourrait rajouter bien évidemment, parce qu'il y a un très très grand biologiste britannique, qui malheureusement d'ailleurs tient est mort d'une maladie tropicale de façon extrêmement subite. Il s'agit de David Hamilton. Et qui donc a réfléchi sur cette sélection de parentèle, hein, et qui dit que c'est le processus pour lequel tout individu partage avec ses proches parents une plus grande proportion de gènes qu'avec d'autres individus pris au hasard dans la population. Donc, mes sœurs sont plus proches de moi que d'autres individus. Donc là encore, de ce point de vue, il y a aussi une amplification, une maintenance, et donc c'est pas en pure perte, évidemment, et qu'on est altruiste et que se perpétuent ces gènes, parce que là encore, vous aviez donné une explication, on la poursuit, c'est pourquoi se maintiennent des individus qui sont généreux, avec tous les guillemets nécessaires. Normalement, cela devrait être rapidement éliminé et que dans une population, le nombre d'égoïstes ou de non-altruistes devrait augmenter. Donc la solution de Hamilton est intéressante.
En tout cas, on peut dire que c'est un joli point de départ pour commencer à réfléchir comment c'est possible et dans quelle situation c'est possible que un comportement qui a priori donne l'impression que c'est complètement désavantageux et ça devrait disparaître peut en fait devenir avantageux. Donc en gros, bien sûr, les critiques disent toujours qu'un tel comportement altruiste qui se base sur cette perspective de gène devient en fait un comportement égoïste dans le sens où ces comportements est quand même le bénéficiaire, c'est quand même le gène. Donc en fin de compte, c'est un avantage sélectif qui est un peu intuitivement au contraire à un comportement altruiste où on dit qu'on ne pense pas à soi et on aide juste les autres, et etc., etc. Donc, si on adopte cette perspective génocentriste de Richard Dawkins, l'aspect dit romantique du comportement altruiste disparaît.
Disparaît, oui. Christian Zax, pour finir, et là encore c'est un gros morceau, on va essayer d'aller vite, ça va être en cascade. Comment est-ce que, d'une certaine manière, on peut définir la vie, c'est une question que vous posez. Hein. Alors évidemment, la vie, c'est quoi? Bon, il y a cette capacité de reproduction à l'identique, il y a beaucoup de spécificités dans la définition. En tout cas, la vie se distingue de manière extrêmement tranchée par rapport aux objets inertes. Si on regarde la croissance des cristaux, c'est pas de la vie, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans des attributs ou en tout cas les propriétés que l'on peut attacher à la définition de la vie? Est-ce que ça doit être la réplication, une des conditions essentielles? Est-ce que ça doit être une espèce d'autonomie par rapport au milieu, les organismes enveloppés dans une membrane? Est-ce que ça doit être cette capacité de reproduction à l'identique? Est-ce que cette permanence de l'homéostasie, est-ce que c'est... Il faudrait rajouter évidemment la capacité de persistance par mutation dans un environnement qui est par définition toujours changeant. Allez, dans ce bric-à-brac, qu'est-ce que vous retenez?
En gros, c'est encore un grand débat où je suis en train de formuler et préciser ma propre position. Mais ce que j'ai constaté, c'est la plupart des approches pour répondre à cette question, comment définir les vivants, c'est basé sur des critères tout à fait intuitifs, tout à fait fascinants et intéressants, mais à mon avis quand même souvent d'une certaine façon arbitraire, de se poser sur certaines capacités qui sont arrivées probablement plus tard dans l'évolution. Donc la perspective que j'adopte, c'est plutôt de se poser la question: quel mécanisme, quelle propriété, quelle capacité sont moins arbitraires, sont plus nécessaires pour vivre, survivre, persister dans le temps? Et à mon avis, c'est la capacité de s'adapter à des changements de l'environnement, en fait. Et question de savoir et comment on arrive à avoir une telle capacité. Et la manière la plus facile d'arriver à une telle capacité est de se répliquer et faire parfois des fautes. C'est en gros comment on comprend aussi de manière simpliste l'évolution.
Parce qu'on peut le rappeler, hein, parmi les grandes énigmes, il y en a deux qui sont toujours pendantes dans la biologie. C'est que évidemment, on ne sait pas comment a émergé et de quelle façon le vivant, comment est sorti de l'inerte le vivant. Et puis vous rajoutez d'ailleurs, Christian Zax, qu'on ne sait pas non plus le refaire ça en laboratoire non plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des acides aminés d'un certain type, ainsi de suite. Bon, mais de refaire jaillir du vivant à part dans un laboratoire, mettons dans des conditions qui sont in vitro, par exemple, eh bien on ne sait pas faire. C'est-à-dire que l'énigme du jaillissement du vivant reste encore entière.
Effectivement. Et on peut dire
évidemment.
Évidemment. Maintenant, il se pose la question. Imaginons qu'on arrive à recréer la vie demain, oui, dans un laboratoire.
Alors,
est-ce que ça résout directement toutes les questions? À mon avis, si on arrive à reproduire la vie, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus, beaucoup mieux les choses que veut dire vivant. Mais ça n'implique pas que c'est forcément comme ça, comme on a reproduit la vie. Il se pose toujours la question, est-ce que nous sommes juste les résultats d'une longue évolution qui a commencé avec le premier vivant, qui était juste vivant de manière contingente, mais il existe plusieurs possibilités de devenir en fait vivante, de ne pas se baser sur l'ADN par exemple. C'est tout à fait envisageable et le progrès scientifique en biologie synthétique nous montre à quel point c'est bel et bien possible. Donc,
c'est ça, des vivants qui ne sont pas appuyés sur l'ADN.
Donc il ne faut pas, oui, faire la faute, d'accord, de se focaliser sur quelque chose de très concret qui est lié avec une certaine composition chimique, physique en fait. À mon avis, il faut adopter, prendre une certaine recul, avoir une perspective plus abstraite et regarder à quel point aussi, peut-être sur d'autres planètes, une forme de vie est envisageable et quels sont, abstraitement parlant, les composants nécessaires ou quasi nécessaires. Et là, oui, à mon avis, on retombe très facilement ou très souvent, au moins moi, personnellement, sur cette capacité de s'adapter à des changements environnementaux.
En somme, et c'est une façon de conclusion, Christian Zax, ça montre que, par exemple, avec cette question de quid de l'apparition de la vie, eh bien, il y a un travail tout à fait pertinent, légitime, qui est un travail de réflexion conceptuelle, de réflexion, conceptuelle, forte, pour mettre à jour des notions qui est l'universalité, qui ne soit pas d'aucune manière arbitraire, mais tout à fait nécessaire. Donc les philosophes ont du boulot sur la planche dans ces questions, et les philosophes de la biologie toujours.
Bah heureusement, et je veux aussi dire ça clairement. Le livre dont on parle maintenant, c'est une manière d'avoir une perspective sur la philosophie de la biologie, mais c'est pas intitulé « La philosophie de la biologie ». C'est mon approche qui a ses raisons particulières et qui se base aussi beaucoup sur la métaphysique et certains débats qui sont traités à la fin du livre sur le, oui, réductionnisme. C'est, oui, mon approche, mais d'accord, c'est une approche parmi d'autres. Mais
en tout cas, c'est une approche bien positive et où on apprend évidemment beaucoup de choses. Je redonne le titre de votre ouvrage avec son sous-titre aussi, Philosophie de la biologie. Évidemment, il n'y a pas d'article défini, c'est pas la biologie de la philosophie, c'est Philosophie de la biologie avec comme sous-titre Enjeux et perspectives. Christian Zax, vous en êtes l'auteur et il est publié aux presses polytechniques et universitaires romandes. Voilà, bien en tout cas, merci d'être passé nous voir.
Merci à vous. Thank you.
Et voilà, ouverture de l'espace critique. Et bonjour Lydia Benistiak.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous ne sortez pas complètement du sujet, hein, on reste dans les sciences biologiques et vous allez parler de quoi? Des créationnistes,
c'est ça? Alors, on ne va pas s'éloigner trop du sujet, mais d'abord on va jeter un petit regard vers Survival International. Vous savez Stéphane, oui. C'est cette organisation, une des rares, qui se préoccupe du sort des peuples dits indigènes. Et ils tirent la sonnette d'alarme à propos de la tribu la plus menacée du monde. Il s'agit des Awa. Leur territoire est au cœur de la forêt brésilienne et se retrouve encerclé sur trois fronts par des bûcherons illégaux. Alors la loi brésilienne devrait les protéger, mais les Awa ne peuvent plus se déplacer pour se nourrir. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Plusieurs d'entre eux ont été attaqués par les bûcherons, y compris une petite fille qui aurait été brûlée vive. Survival dénonce de la même manière le déni persistant concernant le massacre d'une autre tribu, les Indiens Yanomami au Venezuela, menacés par les orpailleurs illégaux. Mais le président vénézuélien prétend qu'il n'existe aucune preuve des attaques de ces communautés. Donc on retrouve tout sur le site de Continent Science.
Alors les Yanomami, évidemment, ce n'est pas la plus menacée en termes de nombre, puisque c'est la plus grande population au monde de chasseurs-cueilleurs, les Yanomami, qui sont dans la forêt amazonienne. Bon.
Autre sujet, un poisson disparaît et tout est dépeuplé. Ce sont les résultats d'une étude publiée la semaine dernière et qui se penche sur les récifs coralliens considérés comme de hauts lieux de biodiversité car ils sont particulièrement riches en espèces marines. Parmi elles, des parasites de poissons jouent un rôle majeur dans l'évolution des espèces, le maintien des populations et l'écologie en général, mais ils restent très mal connus. Une équipe dirigée par Jean-Loup Justine s'est penchée sur les parasites de poissons dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Et l'objectif était d'estimer le nombre d'espèces de parasites de ces poissons et le nombre de combinaisons hôtes parasites possibles. Et il en résulte que l'extinction d'une seule espèce de poisson de récif corallien entraînerait la co-extinction d'au moins 10 espèces de parasites qui lui sont associées. Et même si ces parasites ne sont pas forcément très populaires, leur disparition de fait décuple la perte de biodiversité. Donc on ne s'éloigne pas trop du sujet, puisque cette biodiversité, précisément, c'est ce qui constitue le moteur même, la dynamique des processus de sélection naturelle et d'évolution darwinienne. Qui manifestement ne plaît pas à tout le monde. Alors en effet, aujourd'hui, les attaques contre la théorie de l'évolution sont très organisées. Les créationnistes, persuadés qu'un dessein intelligent a donné naissance aux formes de vie actuelles, veulent reléguer la théorie de l'évolution au simple rang d'hypothèse équivalente à celle de la création divine du monde. Alors on s'attendait à ce que cela provienne des États-Unis, mais c'est la Corée du Sud qui joue les pionnières avec un ministère de l'éducation, des sciences et de la technologie qui vient de nier un pan entier de la théorie de l'évolution en laissant les éditeurs de manuels scolaires rectifier des soi-disant erreurs signalées par des militants chrétiens. Il voulait par exemple effacer le sympathique Archaeopteryx, c'est un petit dinosaure à plumes qui a vécu il y a 150 millions d'années à la fin du Jurassique. Aujourd'hui, en fait, on a découvert au moins 20 genres de dinosaures qui sont connus pour avoir eu des plumes. Et donc, il y a toute une histoire avec Thomas-Henri Huxley qui a émis le premier l'hypothèse que les oiseaux étaient sans doute les descendants des dinosaures. Et les preuves fossiles aujourd'hui abondent. Mais bon, il y a bien eu des erreurs avec des chaînons manquants qui ont été invoqués dans certains cas. Mais ces croyants ne veulent pas croire que les oiseaux descendent des dinosaures et le gouvernement leur a donné raison sans consulter aucun biologiste. C'est ça la situation étonnante.
Oui, alors que les preuves sont appuyées. Hein, voilà. Il n'y a pas que seulement Archaeopteryx lithographica pour apporter cette conviction que les oiseaux actuels descendent des dinosaures.
Alors le gouvernement évoquerait une simple erreur administrative. Mais c'est pourquoi je voudrais, Stéphane, justement vous recommander très vivement l'ouvrage de Guillaume Lecointre, Les sciences face au créationnisme aux éditions Quae. Alors les sciences au pluriel et les créationnismes au pluriel. Il part d'un constat assez inquiétant sur la progression de ces idées, y compris en Europe. Hein. Bien sûr, il évoque le gros volume, l'Atlas de la création envoyé à grands frais par Harun Yahya, qui voulait prouver image à l'appui que l'évolution n'existait pas et qui fut envoyé gratuitement à de nombreux lycées, à des laboratoires qui travaillaient sur l'évolution.
touristes turcs, hein, il faut bien préciser la chose,
voilà,
hein,
mais
ce
on
monsieur
voit
en question.
Que ces courants gagnent l'Europe. Alors, Guillaume Lecointre, lui, est systématicien, chercheur et professeur au Muséum d'histoire naturelle, où il dirige justement le département systématique et évolution. Et le livre est issu d'une conférence où la très bonne idée a été justement de laisser les questions de l'auditoire en fin de livre pour que l'auteur puisse effectivement répondre peut-être sur certaines zones, puisque évidemment il part de sa propre discipline. Donc pour lui, le débat tout simplement ne se situe pas dans le même périmètre. On ne peut pas opposer les sciences et les créationnismes, puisque si les croyances voudraient bien se parer du vernis des sciences, les sciences, elles, n'ont pas du tout besoin, ne sont pas du tout remises en question par ces croyances. Et il explique que leur arme principale, c'est tout simplement leur pratique même et leur protocole méthodologique. Il sait que le débat ne peut pas avoir lieu, puisqu'il ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, il triche. Par contre...
Les sciences, hein, évidemment.
Voilà,
hein,
là, mais d'accord. Par contre, pourquoi oui. Il écrit cet ouvrage? C'est-à-dire que les débats, on ne peut pas les mettre à égalité. Mais pourquoi il écrit cet ouvrage? Justement pour fournir des armes, notamment vis-à-vis, par exemple, des enseignants qui se font envahir ainsi, pour qu'ils puissent fournir des arguments, puisque ces créationnismes ont des arguments, sont assez rusés, utilisent ils mélangent les niveaux de complexité et les niveaux de concept pour bien noyer le poisson, et les gens finalement ne sont pas aguerris pour pouvoir justement répondre à des questions quand même extrêmement pointues. Il précise que même les scientifiques qui bénéficient pas toujours d'une formation épistémologique en fait ne savent pas toujours comment se dépêtrer, puisqu'ils ont une pratique et qu'ils ne se sont pas toujours questionnés sur son fonctionnement. Donc ce qui m'a étonné notamment, puisqu'il fait vraiment une approche très systématique, alors les créationnistes, on voit un petit peu ce qui les dérange dans ces théories. Mais ce qui m'a vraiment étonnée, c'était notamment, puisqu'on en parlait, c'est cette dimension aléatoire. Certains sont d'accord pour dire le monde n'a pas été créé en 6 jours il y a 6 000 ans.
Ça, c'est les créationnistes qui disent ça.
Mais certains sont d'accord pour dire oui, sans doute il y a eu une évolution des espèces, mais ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait le facteur hasard qui ait joué dans cette théorie darwinienne. Ils ne sont pas d'accord.
Sur tout est finalisé. Donc,
voilà, il y a cette idée de
l'aléa
destin.
L'aléa ne supporte pas l'aléa. Bon,
voilà,
d'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il définit ce périmètre des sciences. Finalement, il s'agit d'un contrat qui a pour but collectif de produire des connaissances objectives sur le monde réel. Bien sûr, au passage, il égratigne un petit peu Bruno Latour et ses théories relativistes. Et donc, vraiment, je vous recommande cet ouvrage.
Allez, le titre,
alors,
Lydia.
Les sciences face au créationnisme aux éditions Quae, signé Guillaume Lecointre.
C'est un petit livre d'ailleurs et qui est très précieux à garder sous le coude. Dans les temps de polémique, ben voilà, on arrive
qui donne
au
à
terme.
Oui.
Voilà, on arrive au terme de Continent Science. Bien sûr, merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenus. Jean-Frédéric, ce qui était aux manettes et au gros bouton. Claire Poinsignon, Denis Journeau, Stéphane Delis-Georges. Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, à notre émission. Donc, vous aurez ainsi une plus grande liberté pour une écoute.